Aurélien Bélanger voulait rendre hommage aux Normands que vous êtes, à vos attaches à Rouen, et c'est la raison pour laquelle il a décidé d'évoquer notamment Flaubert ce matin.
Un petit peu. J'avais lu avec beaucoup d'intérêt à sa sortie le gros recueil des critiques littéraires qu'Albert Thibaudet avait publié dans la NRF entre 1912 et 1936. Toutes les notices biographiques de Thibaudet s'entendaient sur trois points. Il était bourguignon, c'était le plus grand critique littéraire de son temps, et il était très gourmand. J'avais lu aussi son Flaubert et j'avais eu l'impression, une vague ressemblance peut-être, que les deux écrivains, le romancier et le critique, le normand et le bourguignon, l'homme du nord et l'homme du sud, se répondaient d'un bout à l'autre de Paris. Leur coprésence sur la même carte littéraire de la France avait quelque chose d'une idéalité géométrique, c'était la structure même de notre champ littéraire, et j'avais fini par m'agacer un peu de ces clichés culinaires incessants dont on adorait alourdir la figure du célèbre critique au liant bienveillant et au goût délicat. Cela m'agace de même quand on finit par préférer les bons mots de Flaubert à ses romans, ou par trouver ses joucoupes prosées plus sexy que Salammbô. J'ai ainsi accueilli avec un peu de scepticisme les sept petits livres de Thibaudet que viennent de publier les éditions des Équateurs, sept petites mignardises couleur de crème brûlée, de champignons, de bouillon de viande, de sauce au beurre. C'était le printemps et ça tombait plutôt mal, c'était un nuancier d'automne. C'était apparemment, en plus, des œuvres de jeunesse, des discours que le jeune professeur inconnu, encore un peu poète, avait soumis au prix d'éloquence de l'Académie française. Pire, son Ronsard avait remporté le prix en 1896 à sa première tentative. Pire encore, il n'avait plus jamais gagné le prix après, même avec son Michelet, son Taine, son Chénier, son Vigny, son Fontenel et son Gautier. L'Académie française, c'est le nom de quelque chose de gênant quand on aime la littérature. Il y a 3 ans, j'ai ainsi appris par une alerte Google reçue à Perpignan que j'étais récipiendaire du prix Amic. C'était une bourse de soutien aux jeunes romanciers et cela tombait plutôt bien. Je venais d'investir dans une télé géante et une PlayStation, ça les remboursait à peu près. J'ai hésité un peu malgré tout à l'accepter. Si je disais oui maintenant, quelle ressource de liberté me resterait-il dans 40 ans pour refuser l'épée? Mais je me suis bien présenté à la cérémonie, je me suis fait prêter une cravate à bandeau oblique et je me suis levé à l'appel de mon nom. J'ai de même commencé, avec l'arrivée des beaux jours, à emmener les petites monographies colorées de Thibaudet dans les squares parisiens, et elles y ont très vite pris les dimensions bourguignonnes devant le paysage onctueux de cette grande intelligence en éveil. L'un des grands charmes de Thibaudet, c'est d'avoir compris que la critique littéraire, c'était la science de l'idée, et qu'on n'abandonne pas une idée car elle est épuisée, mais car elle nous épuise d'avance, car elle est trop vivante pour nous, d'où sa délicate théorie des générations littéraires. Fontenelle, l'unique centenaire de notre littérature, devait légitimement l'intéresser. Sa description de l'écrivain, ce beau canal tout droit entre le siècle du grand roi et celui de Voltaire, vaut presque la description dynamique d'une partie de Tetris, avec ses tétronymos en chute libre, ses modifications incessantes et cette impression de vie qui passe dans son éternité paisible. Trop relégué peut-être dans le demi-jour de notre histoire littéraire, Fontenelle est l'exemplaire complet de ces génies de transition qui n'occupent pas une place éclatante et ne créent point un idéal ou une forme nouvelle, mais qui, entre deux époques, assure les communautés, arrondissent les angles, établissent un ordre régulier et une juste perspective, contribuent à faire du tableau de notre littérature quelque chose d'harmonieux, de suivi, de méthodique, de classique. C'est une définition plaisante de la littérature. Les idées sont trop grandes pour nous, il nous faut les tourner dans tous les sens pour réussir à les transmettre, il faut les digérer. On échappe difficilement avec Thibaudet à la gastronomie. La littérature est une machine à rendre les idées abruptes aussi comestibles que les fruits, à les faire mûrir dans les cloches de différents cerveaux. Parfois, elle parvient même, c'est ce qui s'est passé avec le romantisme, à fabriquer des animaux presque vivants, un gibier merveilleux qui subjugue 2 ou 3 générations avant de s'égayer dans le néant des bibliothèques où seuls des critiques de génie comme Thibaudet sauront encore les débusquer.
Merci Aurélien Bélanger. L'art de la critique, François Hollande, de votre livre Les leçons du pouvoir, justement, vous revenez sur la manière de répondre aux critiques, à celles qui sont grandes comme chez Thibaudet, à celles qui sont plus médiocre, vous écrivez par exemple, il ne faut jamais rien laisser sans réponse.
Oui, parce que il n'y a pas que des fausses informations auxquelles il faut absolument faire justice. Il y a aussi un moment des critiques qui paraissent excessives ou qui sont infondées. Et l'attitude qui était la mienne, c'est de considérer par le mépris, ou en tout cas par une forme d'indifférence, ça ne me touche pas, ça ne me blesse pas, donc je ne vous donnerai pas ce plaisir-là de vous répondre. Or, il faut ne rien laisser passer, car une vilaine rumeur, une information à demi vérifiée, un jugement à peine étayé, devient rapidement la vérité. Donc, réagir, c'est à mon avis, pour la fonction présidentielle très important. Alors c'est vrai que ça vous oblige, quelquefois, à vous mettre à un niveau qui n'est pas forcément le vôtre. Mais la médiocrité mérite aussi la répression.
On a dit de vous que rien ne vous touchait véritablement.
Je ne voulais rien laisser paraître. C'était ma forme de dignité. C'était aussi une façon de montrer que j'avançais quoi qu'il arrive, et avec des comparaisons météorologiques qui étaient souvent dans les papiers que je pouvais lire. Oui, moi, quelles que soient les intempéries, quels que soient les mauvais temps, j'avançais. Et je ne me laissais en aucune façon interdire ou arrêter.